Chers amis, chers camarades, bienvenue à tous et j'espère que vous profitez bien de la fête dans cette ambiance
chaleureuse qui nous permet de passer un bon moment et d'échanger en toute fraternité. Aujourd'hui, les cheminots entament leur 31e jour de grève. Commencé le 3 avril, ce mouvement est plus long et il compte plus de grévistes que tous les conflits de ces dernières années. En attaquant frontalement les cheminots, Macron voulait faire la démonstration qu'il faisait mieux que ses prédécesseurs, qu'il était un homme à poigne, capable d'imposer un recul sans précédent à une des catégories les plus combatives et les mieux organisées. À la différence d'un Sarkozy ou d'un Hollande, il n'a même pas fait semblant de négocier avec un syndicat comme la CFDT, qui a pourtant montré par le passé qu'elle pouvait soutenir les pires reculs. Mais il est tombé sur un os. Car la lutte des cheminots, si elle n'est pas explosive, est massive et déterminée. Et le fait qu'elle dure depuis 2 mois et demi a changé le climat politique dans le pays. Chacun d'entre nous a pu le mesurer dans les discussions qu'il a autour de lui, au travail ou avec ses proches. Oui, bien des travailleurs se sont reconnus dans cette grève. Et malgré la propagande du gouvernement contre les cheminots soi-disant privilégiés, propagande complaisamment relayée par les médias, l'opinion ouvrière, elle, soutient les grévistes qui se battent contre la remise en cause de leur garantie de l'emploi, de leurs horaires et de leurs revenus. Car nombre... de travailleurs qui connaissent des périodes de chômage ou la précarité aspirent eux aussi à avoir un emploi stable. Quant à ceux qui en ont un, ils subissent, année après année, une flexibilité accrue et l'érosion des salaires. Alors avec les cheminots, nous affirmons que loin d'être un privilège, avoir un emploi et un salaire, c'est une nécessité vitale qu'il faut défendre pour tous. Cette grève n'est pas corporatiste, car en défendant leur statut, ils défendent d'abord leurs conditions de travailleurs, et c'est bien ainsi que leur grève est ressentie dans le monde du travail. Lorsque des cheminots en grève sont allés à la rencontre de salariés de l'hôpital, de la poste ou d'une usine, lorsqu'ils ont diffusé des tracts ou collecté de l'argent sur les péages, ils ont toujours reçu un bon accueil. Et lorsqu'une infirmière ou un enseignant venait prendre la parole dans une assemblée générale de cheminots, cela confortait les grévistes. Un autre point positif est à mettre à l'acquis de cette grève. Du simple fait qu'elle existe, et même si elle ne s'étend pas à d'autres secteurs, elle fait cheminer dans les consciences l'idée qu'il est possible de relever la tête, de contester la politique anti-ouvrière du gouvernement. En montrant la voie à suivre, et quelle que soit son issue, la grève des cheminots contribue à préparer l'avenir, elle contribue à préparer les combats futurs. Car il faudra en mener des combats si on veut mettre un coup d'arrêt à la politique du gouvernement Philippe et de Macron et des capitalistes qu'ils servent avec zèle. Macron mérite toujours son surnom de président des riches. Avec lui, la bourgeoisie, les affairistes peuvent continuer de s'enrichir sans vergogne. Non seulement ils les aident, mais ils légitiment leur richesse. Ainsi, Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH et première fortune de France, est devenu en 2018 le 4e homme le plus riche du monde. Grâce à l'envolée de la bourse, sa fortune s'est accrue en un an de 71% pour atteindre près de 47 milliards d'euros, soit l'équivalent de 2,6 millions d'années de SMIC. Tous les secteurs économiques connaissent des profits records, qu'il s'agisse de la banque ou du luxe, en passant par l'automobile ou la grande distribution. Mais derrière les dividendes faramineux empochés à la bourse et l'enrichissement des familles Bettencourt, Dassault, Bolloré et autres beignets, il y a l'aggravation de l'exploitation, les semaines à rallonge, les salaires au rabais. Pour accroître encore ses profits, dans une période de marasme économique et de chômage de masse, la bourgeoisie exige aussi qu'une part de plus en plus importante des ressources de l'État lui soit versée au détriment des services publics utiles à toute la population. Ainsi, les économies sur la santé ou sur l'éducation permettent de dégager les milliards qui vont directement alimenter les trésoreries des grands groupes capitalistes, alors que dans le même temps, les impôts sur les patrimoines des bourgeois et sur les profits, eux, ne cessent de baisser. Cette semaine, Macron en a encore rajouté en déclarant « On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas ». Est-ce que c'est de la morgue, du cynisme, les deux à la fois ? Proposer la diminution, voire la fin de certaines aides aux plus pauvres, en prétendant, je le cite, « les responsabiliser », ne révèle pas seulement un profond mépris social. Macron veut montrer ainsi à tous les plus fortunés qu'il est capable de faire la poche des plus pauvres pour permettre aux riches de s'enrichir davantage. Son gouvernement ne cesse de faire la démonstration qu'il est aux côtés des patrons pour mener une véritable guerre de classe contre le monde du travail. Il revendique sa servilité avec davantage d'arrogance encore et il soutient ces grands groupes capitalistes qui licencient à tour de bras depuis des années et qui sont les premiers responsables du chômage et de la montée de la pauvreté. Ainsi, à Carrefour, des milliers d'emplois sont menacés par la fermeture des 243 magasins de quartier Carrefour Contact, anciennement Dia, et par le plan de restructuration du groupe. Les salariés ont manifesté contre ce plan au cri de « Bompard rend les milliards ». En effet, le groupe Carrefour a fait près d'un milliard de bénéfices cette année et il a touché 2 milliards d'exonérations fiscales en 5 ans. Il a donc largement en caisse de quoi maintenir tous les emplois. Chez Peugeot, sur le site de Vesoul, la direction remet en cause les 35 heures en proposant de travailler 37h45 par semaine, augmentant à peine les salaires, ce qui revient à payer l'heure supplémentaire de travail 3,82 € selon le calcul des syndicats. Alors la direction martèle que c'est pour faire face à la concurrence, mais quel mensonge ! Comme la presse le révélait récemment, PSA est tout à fait capable de s'entendre comme larron en foire avec son concurrent Renault pour gonfler les prix de leurs pièces détachées, volant ainsi 1,5 milliard aux clients. En fait, la concurrence ou la compétitivité que patrons et gouvernements utilisent comme une nécessité n'est qu'une face de la guerre qu'ils mènent au monde du travail pour le pressurer toujours davantage et engraisser les actionnaires. Et les salariés des services publics subissent les mêmes attaques contre l'emploi, les conditions de travail, les salaires. Au nom de la rentabilité, le personnel des EHPAD ou des hôpitaux doit faire toujours plus avec moins de moyens. Ces derniers mois, il y a eu des journées nationales d'action dans les maisons de retraite et des mouvements de grève durables dans certains hôpitaux, comme à l'hôpital psychiatrique du Rouvray. Si la presse a mis en avant la grève de la faim de certains soignants, le résultat, la création de 30 postes sur les 52 demandés, avec 2 unités supplémentaires pour les adolescents, notamment, a été arrachée par la grève d'une bonne partie du personnel depuis le 22 mars dernier, la mobilisation de l'ensemble de l'hôpital et le soutien de nombreux autres travailleurs de la région, dont les cheminots du dépôt de Sotteville-lès-Rouen, eux-mêmes en grève. Toutes ces réactions éparses qui se multiplient sont-elles un pas vers un mouvement général ? Nous n'en savons rien, mais ce qui est sûr, c'est que le seul moyen d'inverser le rapport de force avec le patronat et le gouvernement, c'est un mouvement qui se généralise. Seul un mouvement d'ensemble, déterminé, avec des grèves qui deviennent contagieuses, qui prennent un caractère explosif, pourront arrêter la dégradation continue que nous subissons depuis des années. Dans le passé, la bourgeoisie a pu concéder certaines avancées aux travailleurs quand le marché s'élargissait et que ses affaires prospéraient. Mais dans cette période de crise, sa principale source de profit, à la base de la spéculation financière, provient d'une exploitation de plus en plus intense et d'une précarité plus grande. La seule politique que la bourgeoisie attend des pantins qui nous gouvernent, c'est de l'aider à serrer la vis en déréglementant le travail, en flexibilisant les horaires, en baissant les salaires, les retraites et les aides à tous ceux que le chômage a précipités dans la pauvreté. Elle ne reculera que si elle craint de tout perdre, que si elle se sent menacée dans sa domination. Les travailleurs doivent être prêts à aller jusque-là, même pour obtenir de plus petites concessions. Et c'est dans les consciences que cela commence à se préparer, car sans cette conscience, aucun combat ne pourra aller jusqu'au bout. Alors cette année, on commémore les 50 ans de mai 68, et dans la fête, vous pouvez voir les affiches qui couvraient les murs à l'époque. Cette véritable explosion sociale surprit tout le monde. Partie d'une journée de grève et de manifestation, appelée par les syndicats ouvriers et étudiants pour dénoncer la répression policière qui s'abattait sur la révolte étudiante, la grève générale s'étendit en quelques jours à l'ensemble du pays comme une traînée de poudre. Spontanément d'abord, puis à l'appel de la CGT, les grèves gagnèrent l'ensemble des entreprises, des usines aux banques, en passant par les chantiers, les administrations ou les stations-service. Avec 10 millions de grévistes pendant plusieurs semaines, toute l'activité économique était à l'arrêt. Au point que De Gaulle, qui était d'une autre carrure qu'un Macron, se rendit à Baden-Baden en Allemagne pour rencontrer le général Massue et s'assurer de son soutien éventuel. Si la contestation étudiante exprimait l'aspiration à une société plus libre et plus égalitaire, la grève ouvrière, elle, mettait le changement social à l'ordre du jour. La bourgeoisie s'en inquiétait et De Gaulle cherchait le moyen d'éteindre l'incendie. Alors, comme cela avait déjà été fait lors des grèves de 1936, le pouvoir gaulliste cette fois engagea le patronat et les organisations syndicales à négocier autour d'une table. Les accords de Grenelle qui en sortirent fin mai contenaient principalement l'augmentation de 35% du SMIC. Cela ne concernait à l'époque que 5% des travailleurs et une augmentation de 10% des autres salaires et de nouveaux droits syndicaux, la possibilité de réduire le temps de travail qui était alors de 48 heures hebdomadaires, le plus souvent voire plus. Mais c'était loin des espérances des grévistes. Ces accords furent sifflés à l'usine de Billancourt lorsque Georges Segui, le dirigeant de la CGT qui les avait négociés, les présenta à l'Assemblée des grévistes. Les ouvriers avaient le sentiment que leur grève était bradée pour de maigres résultats, alors que les espoirs que la grève avait soulevés étaient bien plus grands. Il fallut encore plusieurs semaines aux syndicalistes de la CGT pour faire reprendre le travail dans la plupart des usines, et bien des grévistes, laissés sans perspective, reprirent la rage au cœur. Alors si cette formidable grève générale marque encore durablement les esprits, c'est parce qu'elle montre que la force collective des travailleurs peut faire trembler le pouvoir et le patronat. Et face aux attaques qui se succèdent, nous partageons le souhait de tous ceux qui ne veulent plus se laisser faire et qui affirment « il faut un nouveau mai 68 ». Mais notre conviction profonde de militants révolutionnaires, c'est que la classe ouvrière, parce qu'elle est au cœur de la production, qu'elle fait tout fonctionner dans la société, peut non seulement en paralyser le fonctionnement, mais aussi la prendre en main et la diriger collectivement. Aucune autre force sociale ne recèle cette force révolutionnaire, cette capacité de transformer et de construire une autre société. Changer la société devient toujours plus urgent. S'il y avait une image pour symboliser cette urgence, c'est le sort infâme que le capitalisme réserve aux réfugiés qui fuient la guerre et la misère. C'est l'image de ces 629 migrants naufragés en Méditerranée et recueillis par l'Aquarius, un bateau affrété par des associations humanitaires, contraints de naviguer plus de 9 jours dans des conditions inhumaines. Refoulés des ports italiens par le nouveau gouvernement et son ministre de l'Intérieur issu de la Ligue, parti d'extrême droite, xénophobe et raciste, l'Aquarius s'est heurté également au refus de Malte, mais aussi à la criminelle indifférence du gouvernement français qui s'est bien gardé de proposer un port en France. Seul le gouvernement espagnol, dont un socialiste vient de prendre la tête, a accepté que le bateau et ses passagers éprouvés débarquent à Valence. Mais ils ont dû parcourir près de 1500 km par une mer agitée, en plein soleil, avec tout juste les vivres, l'eau nécessaire pour le voyage. Il y avait des femmes enceintes, des enfants, des hommes qui nécessitent des soins. Alors ce Macron, qui ne rate pas une occasion de pérorer sur l'Europe et la solidarité européenne, bien dans les faits, il verrouille les frontières, que ce soit à Menton, dans les Alpes ou en Méditerranée, pour ne pas avoir à prendre en charge quelques milliers de réfugiés supplémentaires. C'est toute l'Europe qui se referme, alors que forte de ses 500 millions d'habitants et concentrant toute une partie des richesses du monde, elle aurait largement les moyens d'accueillir ces centaines de milliers de personnes contraintes à l'exil par le chaos et la barbarie engendrées par l'impérialisme. Alors face à la montée des courants chauvins du racisme que les démagogues de tout poil et de tous les pays encouragent, nous devons réaffirmer nos convictions, non à l'Europe forteresse, oui à la liberté de circulation et d'installation de tous les réfugiés. Dans cette période de recul, la perspective de changer le monde, qui a animé des générations de militants ouvriers, de militants se réclamant des idées marxistes, semble difficile à atteindre, pour ne pas dire utopique, on l'entend souvent. La vie devenant plus dure, pour nombre d'exploités, le combat paraît trop inégal. Mais il n'y a pas le choix. Par le passé, souvent dans des conditions plus difficiles, les travailleurs ont trouvé le courage, le ressort, de se lancer dans le combat pour renverser le capitalisme. En France, pendant la Commune de 1871, ou dans la Russie révolutionnaire de 1917, les travailleurs ont montré qu'ils pouvaient s'affranchir de la domination de la bourgeoisie et briser les chaînes de l'exploitation. Et cela reviendra, nous en sommes convaincus. Car la capacité des travailleurs ne dépend pas des idées révolutionnaires. Elle est entretenue par l'oppression et les injustices suscitées par le capitalisme lui-même. Mais pour que la révolte se transforme en révolution, il faut des femmes et des hommes, des jeunes, qui soient conscients des tâches à accomplir. Il faut un parti communiste révolutionnaire. Seul le mouvement ouvrier communiste, dont l'objectif est d'enlever à cette minorité capitaliste sa capacité de nuisance en l'expropriant et en transformant le capital privé en capital collectif, peut supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme et faire naître une société porteuse d'un autre avenir pour l'humanité. Cette perspective peut paraître lointaine au vu de la combativité actuelle des travailleurs. C'est pour cela qu'une partie des militants ouvriers se disent qu'en attendant, il faut choisir le moins pire, qu'il faut soutenir un gouvernement qui défendrait peut-être un petit peu, pourquoi pas, les travailleurs. Mais c'est une duperie et cela revient à remettre sa confiance dans un Mélenchon ou un Hamon. Et on le sait d'expérience, il y a toujours loin entre ce qu'ils défendent quand ils sont dans l'opposition et ce qu'ils font lorsqu'ils accèdent au gouvernement. Souvenons-nous de Hollande, dont l'ennemi était la finance, qu'il a si bien servi pendant les 5 ans de son mandat. Souvenons-nous aussi de Tsipras, premier ministre grec. Il était arrivé au pouvoir en 2015 sur un programme autrement plus radical que celui de Hollande ou Mélenchon. Mais aujourd'hui, c'est lui qui impose les mesures d'austérité, la baisse des salaires, des retraites, les privatisations que les banques exigent. Non, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'autre débouché politique que celui qui conduit au renversement du capitalisme. Cela ne passera pas par une nouvelle mouture gouvernementale. Cela ne viendra que de l'action consciente et de la lutte collective des travailleurs pour s'emparer du pouvoir politique et l'exercer eux-mêmes de façon démocratique. C'est pour cet objectif qu'il est indispensable d'œuvrer aujourd'hui à la reconstruction d'un parti qui continue d'affirmer fièrement sa confiance dans les capacités de la classe ouvrière à transformer de fond en comble la société capitaliste, un parti qui défende véritablement la perspective communiste. Et je vous propose qu'on reprenne ensemble les paroles de l'International.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim.
La raison tenant son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, vous l'esclaves debout, debout. Le monde va changer de base, nous sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, vous pour nous et demain.